sont vos anniversaires ou vos réunions d'après-match de hockey, dirigez-vous chez Paré et célébrez à fond en compagnie des plus belles filles de Montréal. De Paris à Moscou, de New York à Sydney, chez Paré jouit d'une réputation enviable qui dépasse nos frontières. Découvrez-en plus sur nos comptes Instagram et Facebook et réservez vite votre table. Les plus chaudes nuits de Montréal se déroulent chez Paré. Tous les jours, jusqu'à 3h du matin, au 1258 Stanley.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjou et Côte-des-Neiges et Verdun et Helmsic et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Dollard-des-Ormeaux et La Chenée, Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Votre été s'annonce encore plus beau, car le prix des employés pour vous est en cours chez Chevrolet. Commencez votre prochaine aventure dès aujourd'hui en visitant votre concessionnaire Chevrolet le plus près pour découvrir nos offres.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM. 100% sport. Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le Club du Matin. They wanna get mad. Fais partie du club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le Club du Matin.
Le Club!
Hey, bon mardi tout le monde, bienvenue dans le Club du Matin. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Peu importe où vous êtes, peu importe de où vous nous écoutez. De Montréal au 91.9, Québec au 100.9, Gatineau au 96.5, sur l'application mobile de BPM Sport ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme à l'habitude, on a un gros, gros, gros show pour vous. Nicolas Saint-Pierre va venir faire son tour un petit peu plus tard à l'émission pour discuter de la situation chez les Oilers d'Edmonton hier. C'était le tournoi de golf de la fondation de la famille Hyman. Vous connaissez bien évidemment Zach Hyman qui joue pour les Oilers d'Edmonton. Eh bien, sa famille, ils ont quand même pas mal d'argent puis ils ont organisé un tournoi de golf caritatif hier. Connor McDavid était là, Leon Draisaitl était là, Zach Hyman aussi. C'était leur première apparition publique depuis la nomination de Mike Babcock. Ils en avaient long à dire sur cette embauche-là. J'ai bien hâte d'en parler avec Nick un peu plus tard à l'émission. Valérie Tétrault, la directrice de l'Omnium Banque Nationale, va venir faire un tour. Le tournoi qui commence dans quelques jours déjà. Plein de choses à discuter avec elle, notamment Félix Auger-Aliassime. Ça a été annoncé hier. Il va être la deuxième tête de série à l'Omnium Banque Nationale. Vraiment, c'est une occasion en or pour Auger-Aliassime de peut-être connaître sa meilleure performance à vie à l'Omnium Banque Nationale. Le tableau est plus ouvert que dans les dernières années. Marco D'Amico, Jean-Sébastien D, qui ont pas mal de choses à nous raconter aussi. On a des invités spéciaux qui vont arriver un peu plus tard. Et ben pas le choix, parce qu'il y a encore des rumeurs de transactions avec les Blue Jackets de Columbus, Ken Johnson notamment. Son nom est ressorti hier. On va devoir adresser ce sujet-là. Mais avant, je l'ai pas encore salué. Hugo, comment ça va?
Salut, ça va bien, man? Ça va super bien, moi.
Bon, j'aime ça que tu t'es répondu à toi-même.
Ouais. Ah ouais. c'est ça.
C'est la vie, hein?
C'est la vie.
Passez une bonne journée hier, Hugo.
Ouais, vraiment, vraiment. Encore là, du baseball?
Encore, mais là, il pleuvait.
Mais écoute, c'était pas si pire. C'était pas si pire.
Hey, moi, c'était le déluge.
On a évité la pluie du côté de Varennes hier soir. OK. La LBA 35, les Giants, ils ont une grosse victoire hier soir.
La quoi, 35?
Pire, LBA 35, okay. Le baseball.
OK.
Ouais. Grosse victoire hier avec Jacob Lacharité.
Ouais.
Bonjour, Sam.
Qu'on salue, qui est là. Salut, Jacob.
Salut.
Belle performance de sa part.
Exact.
Bon, ben, je suis content. C'est vrai que des fois, avec les orages, c'est comme isolé par certains endroits.
On a été chanceux. On a pogné comme la fin du nuage. Fait qu'il y a plu, mais il y a plu pendant comme 5 minutes.
Tant mieux.
Après ça, on a pu jouer. Toi, de passer une belle soirée?
Ouais, moi j'étais content hier parce que j'ai mangé mon premier maïs de la saison.
Oh,
mon
ouais.
Premier blé d'Inde.
C'est le temps, là.
C'est ça. encore un petit peu tôt, fait que j'étais un peu sceptique. J'étais comme, ah, va-tu être si bon que ça? Solide. Solide. Tu sais, t'achètes le blé d'Inde dans un petit kiosque.
Ah ouais, vraiment.
Il y a un camion rempli de maïs. Je l'ai fait bouillir, je l'ai mangé. J'étais très, très, très content. Pendant longtemps, moi, j'étais quelqu'un beurre. Je mettais du beurre dessus. Ah, puis tu sais, il y en a qui mettent du beurre, il y en a qui mettent du sel, mais je trouve qu'en vieillissant, en prenant de la maturité... Ah, exactement.
Ouais. Mais quand il est sucré, c'est excellent. C'est excellent.
Oui. T'as pas besoin d'ajouter de quoi d'autre.
Sinon, petite assistance, c'est pas trop prêt tout de suite. Mais quand il est prêt, là, tu le manges comme ça.
Parce que, tu sais, quand t'es jeune, là, tu le mets dans le beurre, puis tu mets genre une livre de beurre sur ton maïs. ben du sel. Mais là, tu goûtes même plus le maïs.
C'est ça, là. C'est ça le but, quand même. Ça fait partie de l'expérience. Tu l'achètes pour ça.
Exactement.
Et voilà.
Alors, fais peut-être me dire, là, sur YouTube, messagerie texte, 514-790-0919. Est-ce que vous avez pas des croyances, là, mais y a-t-il quelque chose de spécial que vous mettez sur votre maïs? Parce que évidemment, tout le monde a des goûts différents. C'est très, très correct. Tu sais, moi, j'avais été au Mexique quelques années. Mm-hmm. Puis, bon, le maïs est différent là-bas parce qu'évidemment, des variétés de maïs en Amérique du Sud, il y en a des centaines.
Ouais.
Bref, ça, c'était un maïs qui était un petit peu moins sucré. Il était pas sucré du tout, en fait, puis c'était de la mayo.
Ah ouais?
Puis du paprika qu'il mettait dessus. Mais genre, mais énormément de mayo. Puis, au début, j'étais pas trop sûr.
Finalement.
Mais c'était bon. C'était bon. Sûr. Bon, tu vois, là, on en a une coupe. Martin nous dit qu'il met du poivre.
OK.
D'ailleurs, j'ai pas encore acheté de chat, Martin. Maxime dit qu'une amie met de la mayo et du tabasco.
Ouais, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. De la sauce piquante, tabasco, de la red hot.
Jean-Luc, il met mayo, feta et piment cayenne en poudre.
Et tabarouette.
Danny, sauce red off. Red hot, excuse. Ouf, c'est malade. Ça, c'est une bonne idée. Je vais l'essayer.
C'est sûr.
Pascal, cuit sur le barbecue. C'est bon sur le barbecue. Mayo épicé, fromage, feta et poivre. OK, le feta, ça commence.
Il y a un numéro inconnu qui dit faire bouillir avec eau, lait, beurre et miel. Wow. Ça,
dans l'eau.
Ouais, c'est ça. Mais ça là, doit, c'est ça. Ça
tu viens de me
ça.
Donner une idée parce qu'il m'en reste. Je vais faire ça à midi.
Miel, c'est sûr qu'il va être sucré.
Encore plus.
C'est sûr. C'est
puis,
sûr.
Puis Alex, épice thym.
Ouais. Ben, ça aussi, c'est bon, c'est sûr.
Merci. Merci. Après ça, sur YouTube, Guillaume, il dit « J'ai un de mes amis qui met du jus de lime. Il a écrasé un quartier de lime sur le maïs. »
Ah ouais, OK. Voilà. C'est ça aussi. Wow. Bon, ben, Tim, on a des recettes là, pour la semaine.
Pour la semaine, pour la fin de l'été, pour l'automne.
Je pense que t'as beaucoup de blé d'Inde.
Exactement. Lime, beurre, sel. Il n'y a rien comme une bonne épluchette de blé d'Inde.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça vient rejoindre plein de gens.
Oui, c'est très communautaire.
Ouais.
Tu sais, c'est vraiment pas sophistiqué, on s'entend, là, une épluchette de blé d'Inde, mais. T'es content.
Ben
t'sais,
oui.
Tu peux pas être malheureux à une épluchette de blé d'Inde.
Non, c'est sûr. Ça,
exactement.
C'est sûr. La bonne musique. Pas moi là-dessus.
Ah, ça, ma blonde m'a parlé de ça hier. Il y a quelqu'un qui nous en parle. Ça a l'air que la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, c'est le maïs cuit au micro-ondes. Les gens le mettent dans le micro-ondes avec le... autour, là.
L'épi.
L'épi.
Ouais.
Puis là, ils le mettent au micro-ondes un certain temps. Et là, quand tu sors le maïs, puis tu l'épluches... Il est parfaitement cuit.
C'est pas vrai, ça.
Ouais.
Hey, OK, mais... ça, t'as essayé, pas vrai?
Je trouve ça un peu paresseux.
Ouais, mais moi je pense que je vais essayer, moi.
Toi, t'es déjà essayé ça. Ça vaut l'expérience. Les gens, ils font n'importe quoi dans leur micro-ondes maintenant.
Non, mais ça pourrait...
Tu peux faire des gâteaux, tu peux faire absolument n'importe
vrai,
quoi.
C'est vrai. Mais comme ça, je vais pouvoir te donner une réponse demain.
Parfait.
Là-dessus.
Ouais, tu vas aller acheter du maïs après le show.
Je vais essayer, je pense.
Parfait. OK, on va faire ça. Bon, assez parlé de bouffe. Ça commence pour l'émission du 28 juillet 2026. Encore des rumeurs avec les Blue Jackets de Columbus. C'est pas fini, cette histoire-là. Hier, Max Truman de danslescoulisses.com a pondu un texte dans lequel il rapportait que le Canadien pourrait conclure une transaction d'importance dans les prochains jours avec les Blue Jackets, mais pas pour Kirill Marchenko. Selon ce qu'il entend... Le Canadien pourrait peut-être mettre la main sur son fameux deuxième joueur de centre. L'équipe aurait notamment eu des discussions, oui, avec les Blue Jackets, mais aussi avec les Maple Leafs de Toronto. Ce que Max raconte, c'est que les Blue Jackets sont un petit peu dans le trouble d'un point de vue financier en ce moment. 14,5 millions de dollars de disponibles sous le plafond salarial, mais ils doivent signer Adam Fantilli, qui risque de coûter, vous avez vu les derniers contrats qui se sont signés, 12, 13, 14, 15 millions de dollars. C'est ce que Connor Bedard a signé. C'est la même QV que Fantilli, ça. Alors Max dit non, non. Fantilli, c'est pas nécessairement le, c'est pas le joueur que le Canadien va aller chercher, mais le Canadien pourrait peut-être profiter de la situation à Columbus pour aller leur chercher un salaire, pour leur donner un petit peu plus d'espace sous la masse et signer Fantilli correctement. Max Drummond suggère notamment le nom de Kent Johnson. Ça, c'est un nom qui est très intéressant. C'est un nom qui fait énormément réagir. Pourquoi? Ben, Kent Johnson, ancien très très haut choix au total, cinquième choix au total des Blue Jackets de Columbus en 2021. Et à l'époque, quand il avait été sélectionné, il était vu comme un centre. Lui, c'est un centre naturel. Par contre, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, il joue juste à l'aile.
Ouais.
Vraiment. Par contre, en théorie, il a déjà joué au poste de centre. Il est rendu à 23 ans, un gabarit correct, 6 pieds 170 livres, un joueur un peu frêle. Seulement 22 points l'an dernier, mais il y a 2 ans, Kent Johnson avait vraiment éclos 57 points en 68 matchs. C'est un haut choix au total. C'est un gars qui est super talentueux, très, très, très habile, d'excellentes mains.
Ouais.
Par contre, un peu un joueur de périphérie, quelqu'un qui est pas nécessairement le plus impliqué physiquement. Quand je te dis Kent Johnson comme plan B pour le Canadien, t'en penses quoi, Hugo?
Ah, moi, j'ai un peu peur. Justement, je pense qu'il y a une raison pourquoi il a été déplacé à l'aile. C'est son sens de la responsabilité. Centre naturel, mais qui n'est pas trop impliqué, c'est difficile. Et pour Kent Johnson, la motivation de faire le pas de plus, c'est un peu plus difficile dû à ses blessures, dû à son historique de santé. Moi, personnellement, je toucherais pas tant Kent Johnson. Puis c'est pas contre son talent est impeccable.
Ouais.
C'est juste que j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation qui, et là, je suis pas en train de comparer les deux, je parle de la situation, mais comme celle de Patrick Laine, où on a une situation où un gars a vraiment des habiletés, a vraiment un côté élite à son jeu qui pourrait bénéficier le Canadien, mais que l'état de santé pourrait jouer.
Ouais.
Et est-ce que le Canadien veut vraiment se lancer dans une autre situation où on doit gérer un dossier? Je pense pas. Je pense que si tu veux amener quelqu'un de talent, tu veux qu'il soit fiable, tu veux qu'il soit disponible, et tu veux pas t'en soucier. J'ai l'impression qu'avec Kent Johnson, si le Canadien décide de le rapatrier, ben on va se soucier de Kent Johnson comme on s'est soucié de Kirby Dach.
Ben regarde, Maxime nous le dit. On dirait que tu décris Kirby Dach.
C'est ça. Voilà.
C'est un peu ça. Moi aussi, je pense de ton côté, Hugo. Kent Johnson, non merci. C'est quelqu'un qui a un historique de blessures important. C'est pas ça que le Canadien a besoin. Le Canadien a déjà plusieurs joueurs qui ont des historiques de blessures. On n'en veut pas d'autres. Dans les dernières saisons, 76, 68, 42 et 79 matchs. C'est inévitable. Chaque année, il finit par se blesser. Certaines années, plus que d'autres. Et comme on mentionnait hier, c'est fini les projets.
C'est ça.
C'est fini de tenter sa chance sur Kirby Dach puis Alex Newhook. Quoique Alex Newhook, ça peut-être bien fonctionné. Je pense que là, on commence à s'apercevoir quel genre de joueur il peut être. Mais tu sais, ça t'a quand même pris une chance sur lui. Patrick Laine t'a pris une chance sur lui. C'est correct quand t'es en reconstruction, quand t'essaies de bâtir de quoi. Mais quand t'es une équipe qui veut prendre le prochain pas et que le prochain pas, c'est d'être aspirant à la Coupe Stanley, c'est fini les projets, là.
Mm-hmm.
Tu peux pas miser sur quelqu'un avec tellement d'incertitudes comme c'est le cas avec Kent Johnson.
C'est ça. Par contre, tu l'as dit tantôt, il est encore très jeune et il peut avoir une saison où là, il éclot un peu plus.
Exactement.
Il gagne en maturité.
Parce qu'il est super talentueux.
Il a eu,
contrairement à Dach, contrairement à Newhook quand le Canadien avait fait son acquisition, Kent Johnson a quand même une saison de 57 points derrière la cravate.
C'est
en 68 matchs. Là. Fait que faites ça au prorata, c'est au-dessus de 60 points sur une saison complète.
Ouais. Il est solide, il a une belle vision. C'est un gars qui pourrait se mouler à Ivan Demidov. Tu sais, comme ils ont un style de jeu similaire, ils seraient capables de compléter leur jeu. Mais encore une fois, c'est une question de constance. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je crois pas que tu vas retrouver dans le cas de Kent Johnson, justement, dû aux blessures, puis dû au fait que ça y va par phase.
Non, c'est ça.
Ouais.
Niveau contrat, ça ressemble à quoi Kent Johnson? Ben, ça, c'est peut-être un peu plus positif, oui puis non, vous allez voir pourquoi. C'est seulement 1,8 million de dollars son contrat pour encore une autre saison. Il devient agent libre avec compensation l'an prochain. Alors, tu permettrais quand même aux Blue Jackets de sauver un petit peu d'argent, mais pas tant que ça. Ken Johnson, évidemment, il coûterait, je pense, pas super cher aux Canadiens de faire son acquisition. C'est là, disons, la différence entre un Johnson puis un Marchenko. Marchenko, c'est un joueur qui est établi, c'est un joueur qui fait partie de l'élite de la LNH. Johnson, non. Fait que, tu sais, est-ce que tu pourrais l'avoir pour un espoir, peut-être, qui, tu sais, je sais pas, un David Reinbacher, un choix repêchage, peu importe. Peut-être. Il coûterait pas super cher à faire son acquisition. C'est peut-être là où ça peut être intéressant, mais honnêtement, pour moi, c'est non. Regarde. Un ailier qu'on veut mettre en centre, on a vu ça à maintes et maintes reprises à Montréal. Mm-hmm. Ça n'a pas marché avec Jonathan Drouin. D'autres gars comme Alex Galchenyuk, qui était visiblement pas un centre, on a essayé de forcer la note, ça n'a pas fonctionné. Même Kirby Dach, clairement, c'est plus un ailier qu'un centre. Alex Newhook, tu sais, Ken Johnson n'a jamais joué comme centre dans la LNH.
C'est ça, il a toujours
été. Ça fait des années qu'il n'a pas joué au centre. Là, du jour au lendemain, tu espères le voir éclore à cette position-là. Je suis vraiment pas sûr.
Non, assure-toi de prendre une décision et prendre un joueur de centre établi. Comme ça, t'auras pas justement de projet, comme tu dis. T'sais, si tu vas avoir quelque chose de sûr, tu vas avoir une narrative qui va être claire, puis tu vas suivre ton rythme. Le rythme du Canadien présentement, c'est de gagner.
Si tu regardes l'alignement des Blue Jackets de Columbus, quitte à tenter ta chance sur un ailier qui a déjà joué au centre, moi, le profil de Dmitri Voronkov m'intéresse beaucoup plus. Parce que contrairement à Johnson, dont le style de jeu ressemble à celui de beaucoup d'autres joueurs du Canadien, Voronkov t'amène une dimension complètement différente. Le gars est 6 pieds 5, 235 livres.
Il est énorme.
Il est massif, ce gars-là. Puis il est quand même capable d'être impliqué physiquement. Oui, c'est pas le plus constant, puis c'est pour ça que Rick Bonus l'aime pas, puis c'est pour ça qu'il jouait pas à la fin de la saison, mais il t'apporte quelque chose de différent. Un joueur avec des habiletés naturelles, avec des mains, le Canadien a déjà une tonne. C'est pas ça qui va changer la donne. Voronkov, c'est un attaquant de puissance qui a quand même déjà produit dans la LNH. Oui, il est énigmatique, mais il a déjà plus joué au centre aussi dans la ligue que Ken Johnson. En 2023-2024, il a pratiquement passé la saison au complet au centre, contrairement à Johnson, qui n'a jamais joué au centre dans la LNH. En plus, Voronkov, c'est un plus gros salaire, donc tu peux plus alléger les Blue Jackets, et il a l'air de moins figurer dans leur plan que Johnson. Parce que, comme j'ai dit, Rick Bonus, il n'aime pas Voronkov.
Non, c'est ça, exactement. Ça serait une situation propice à un départ pour Voronkov. Et moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est vous aimez le type de jeu de Juraj Slavkovski, de la manière qu'il protège la rondelle, de la manière qu'il est capable de trouver un peu ses coéquipiers. Dmitri Voronkov, ça va être ça avec un step de moins, si vous voulez. Mais au niveau de la constance.
Une coupe de coche de moins, surtout au niveau de la constance. Mais
exact.
Écoute, mais un gabarit comme ça, là, ça court pas les rues.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être bénéfique parce que le CH, un attaquant de puissance, rentre dans les conversations, dans les mêmes conversations qu'un deuxième centre. C'est quelque chose qui est nécessaire.
C'est un besoin.
Oui, exact. Fait,
un ailier avec des mains. C'est pas un besoin.
Exact.
Tu sais, tandis que c'est un espèce de mix de centre-ailier, là, parce que c'est pas trop clair, mais t'ajoutes Voronkov à ce que t'as déjà avec Kapanen, avec Newhook, ben, peut-être qu'à la force de patcher des trous, puis d'essayer ci pis ça, puis selon l'affrontement, selon l'adversaire, selon le match-up sur la glace, selon si t'es en zone offensive, zone défensive, tu peux changer un petit peu, bouger les choses, ben, c'est plus intéressant pour moi que Ken Johnson. Voronkov, 100%. Son contrat, je vous le rappelle, c'est 4,175 millions pour encore un an, devient agent libre avec restriction l'an prochain et est éligible à devenir joueur autonome sans compensation à partir de l'été 2028. Puis là, je sais que vu qu'on parle beaucoup des Blue Jackets de Columbus, les gens ils se mettent à fouiller leur alignement de fond en comble. Là. Quel joueur pourrait intéresser le Canadien si
ouais,
ça?
Ouais, ouais.
C'est pas une vente de feu non plus à Columbus. Là. Ils sont pas en train de reconstruire ou quoi que ce soit. Ils ont peut-être des enjeux pour convaincre des joueurs. Ils ont peut-être des enjeux pour libérer du salaire. Mais ils échangeront pas Sean Monahan, par exemple.
Impossible.
Sean Monahan, ce serait le deuxième centre parfait.
Ouais.
Je pense qu'il a déjà joué avec le Canadien, en plus. Hein?
Ouais, on l'avait.
Ouais, ça me dit de quoi.
Je pense qu'on l'avait.
Ça me dit de quoi.
On l'avait. Mais c'est... non, mais t'as raison. C'est pas une vente de feu. Par contre, faut pas nier le fait que Don Waddell va devoir regarder certaines situations parce qu'il y a des joueurs qui vont quitter l'organisation, c'est sûr.
Mm-hmm.
Avec les rumeurs, avec la manière qu'ils gèrent les dossiers,
c'est inévitable.
Il va y avoir des départs. Donc, c'est important d'être capable de cibler qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les Canadiens. Voronkov en fait partie. Et d'ailleurs, est-ce que tu ne serais pas réjoui d'avoir trois gros attaquants de puissance si tu considères Josh Anderson là-dedans?
C'est sûr.
T'sais,
plus t'en as, mieux c'est.
Exact.
Puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Marchenko aussi depuis cette fin de semaine. C'est quelque chose que le Canadien a besoin. Le Canadien, hier d'ailleurs, qui a fait une transaction, pas celle dont on s'attendait. On aurait aimé une transaction LNH, mais pas grave. Il y en a une pareille avec un gars qui a déjà joué pour le Canadien. C'est Sean Farrell qui a été échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de Sacha Pastouyov. Farrell, je vous le rappelle, choix de quatrième tour du Canadien, 124e au total en 2020. A dominé la USHL par la suite. Il jouait avec l'équipe de Chicago, qui est une équipe...
Le Steel de Chicago.
Ouais, ouais. Vraiment solide dans la USHL.
Bon, c'est comme la meilleure équipe.
C'est ça. 101 points en 53 matchs après son année de repêchage. Ensuite, il s'est rendu du côté de l'université de Harvard, où il y a eu des saisons de 28 points en 24 matchs et 53 points en 34 matchs. Même représenter les États-Unis aux Olympiques. Puis tout ça, ça a fait en sorte que... On a commencé un petit peu à se fonder un certain espoir avec Sean Farrell. Clairement, c'était un joueur de talent, un joueur qui avait beaucoup d'habileté. Par contre, tout petit. Quand je dis tout petit, là, vraiment...
5 pieds 7, là.
Ouais.
Minuscule.
Les mensurations officielles, c'est 5 et 9, 175. Ouais. Vous l'avez vu sur la glace, il a l'air d'être encore plus petit que ça.
Ouais,
ça reste que, avec ce statut-là de joueur des collèges américains, on sait comment ça fonctionne. Ben, son agent était capable d'y négocier... pour que le Canadien le fasse jouer à la fin de la saison 2023. Il a brûlé une année de son entente, donc il a joué 6 matchs en 2023, un but, aucune passe, fait qu'un point en 6 matchs, et par la suite, on ne l'a plus jamais revu avec le grand club. 3 saisons avec le Rocket de Laval, des saisons de 28, 44 et 53 points. C'est donc la fin pour lui. Dommage, parce que c'était quand même un gars de talent. Mais en même temps, il y a tellement de petits joueurs avec le Canadien, puis je suis pas sûr que Sean Farrell avait nécessairement le coup de patin pour s'établir dans l'LNH.
Ouais, exactement, parce qu'on sait que lorsque tu es un petit joueur, d'habitude, le patin vient un peu à ton avantage, ton agilité et tout. Sean Farrell avait quand même un bon lancer aussi. Mais effectivement, n'a jamais vraiment réussi à s'établir. Même dans la Ligue américaine, par moments, ça a été difficile pour Sean Farrell. C'était beaucoup de séquences. On se souvient, Anthony Marcotte en parlait souvent de ça. A quand même réussi à avoir un bon rendement sa dernière année. Il a fait 52 points en 72 matchs, 57 points en 72 matchs, quelque chose comme ça. Puis, ben, ça lui a donné de la valeur... Pour la suite, là, voir à quel point il va avoir des nouvelles responsabilités à San Diego. Mais malheureusement, dû à son gabarit, dû à son rendement,
ça
va être la Ligue américaine pour Sean Farrell.
Et là, il a été acquis en retour de Sacha Pastouyov. Pastouyov, c'est un ancien choix de troisième tour des Ducks d'Anaheim. Plusieurs personnes l'aimaient à son année de repêchage. Là, c'est quand même un gars qui a de très, très bonnes habiletés. Donc, choix de troisième tour, 66e au total en 2021. Donc, il est à peu près un an et demi plus jeune que Farrell. Lui avait joué pour le programme de développement américain et dans la Ligue de l'Ontario avec le Storm de Guelph et le Sting de Sarnia. L'an passé, dans la Ligue américaine, quand même, Pastouyov, qui est un ailier de 6 pieds, 183 livres, c'est 57 points en 71 matchs. Il a terminé au premier rang des pointeurs des Ghosts de San Diego.
Quand même.
Et par moment, on parlait même de lui comme un potentiel rappel à Anaheim.
Quand Bref. Même.
Mais on c'est partira pas en peur en disant que c'est la solution pour le top 6 du Canadien, mais peut-être que c'est un gars qu'on va voir à Montréal l'an prochain s'il y a des blessures ou quoi que ce soit.
Ouais, exactement. Genre de gars qui. C'est un profil de talent. C'est un profil de marqueur. Puis ça va être clairement pour son rendu offensif, sa vision, ce qu'il peut apporter pour concrétiser.
Ouais.
Qu'on est allé chercher, mais encore une fois, c'est pas coulé dans le béton. Là.
Non, vraiment pas. Je lisais Martin Thériault hier, qui évidemment, lui, Marty, il les connaît tous les joueurs comme le fond de sa poche. Collaborateur d'ailleurs dans le Club du Matin, on va lui parler demain. Il mentionnait que pour Pastouyov, c'est un joueur qui se démarque par son coup de patin, son tir et ses mains. Par contre, joue beaucoup en périphérie. Ça reste que là, il y a beaucoup de changements au Rocket de Laval cet été. Des départs avec des joueurs... qui occupait quand même des rôles importants dans les dernières années. Sean Farrell, William Trudeau, qui a joué des grosses minutes à la ligne bleue du Rocket dans les dernières saisons.
C'était très important.
Samuel Blais, qui vraiment a été une très très bonne acquisition pour le Rocket l'an passé, un rouage important de l'équipe. Luke Tuck aussi, qui a peut-être déçu étant donné son rang de sélection au repêchage, choix de deuxième ronde, mais quand même, là, il a été échangé. Et bien évidemment, Pascal Vincent aussi, qui est rendu dans l'organisation du Kraken de Seattle. Donc, il va avoir du changement à Laval l'an prochain, mais on a l'impression que le Canadien est agressif avec son club école. Plusieurs transactions, plusieurs signatures. Faut s'attendre à avoir un visage différent chez le Rocket l'an prochain.
Ouais, ça va être une période transitoire, mais encore une fois, on a bien fait d'aller chercher un gars comme Daniel Jacob qui va être l'entraîneur-chef de l'équipe parce que, au final, la philosophie va rester la même à Laval. Puis c'est ça qui va être le plus important pour être capable de continuer à garder le groupe soudé. Mais oui, effectivement, tu l'as dit, Ali, c'est quand même des piliers là, qui sont partis. Sean Farrell a quand même été important offensivement.
Ah ouais.
Tu sais, William Trudeau a joué des minutes sur la première paire à Laval de manière constante depuis 2 ans. Ben Samuel Blais, on le savait, il a même été super bon lorsqu'il portait les couleurs du Canadien durant l'année. C'est ça. Et Luke Tuck, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il développe un peu plus ses habiletés d'attaquant de puissance. Mais encore une fois, j'ai l'impression que malgré ces pertes-là, on n'est pas... comme tu dis, on n'est pas sur le bouton panique, on essaie juste d'ajuster le tir présentement. Et le Rocket le fait avec brio. Donc, à chaque année, ils peuvent nous surprendre. Donc, j'ai hâte d'avoir le produit l'an prochain.
Exactement. Il y a plusieurs bons espoirs du Canadien, ou espoirs quand même intéressants, qui vont débarquer à Laval. On peut penser notamment à un gars comme Vincenz Rohrer, Owen Protz aussi en défense. Quelques visages qui vont se greffer à l'équipe en vue de la prochaine saison. On va prendre une pause de retour. C'est le Focus NFL. Il y a des joueurs qui vont revenir de blessures cette année et ça va complètement changer la donne. Il y a des équipes qui auront un visage complètement à cause de ça et on fait le tour après la pause.
Expérience Matin. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencemata.ca.
Arrêtez tout et venez chez Metro cette semaine pour économiser gros sur vos fruits et légumes préférés grâce au programme Moi. Savourez les framboises biologiques à 2,88 pour les membres et 2,99 pour les non-membres et profitez d'autres grosses économies sur les bleuets, le maïs, le brocoli et les gros melons d'eau. Avec une récolte de rabais comme celle-là, c'est difficile de trouver mieux. Metro. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur metro.ca.
T'as juste à y aller vite. Ça fait longtemps que j'en fais, je suis correct. Ah, j'en ai juste pris une. Je suis certain que ça passe. Y'a pas de danger. Pas besoin de casque, c'est pas loin.
Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. À VTT, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Garde ta passion en vie. Un message du gouvernement du Québec.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là. On donne tout ça, Sico, Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
Maintenant disponible, l'Encan BPM Sport.
Une location d'un an d'un espace d'entreposage 5x5 ou 5x10 chez Entreposage Bluebird d'une valeur de 1 200 $.
Une location d'une semaine dans un chalet Zen House à plus de 50% de rabais d'une valeur de 7 500 $.
Deux abonnements de un mois chez Canyon Escalade d'une valeur de 125 $.
Trois chèques cadeaux de 200 $ chez Treviano.
Trois rondes de golf de 18 trous pour deux personnes avec voiturette d'une valeur de 200 $ chacune.
Quatre certificats cadeaux de 100 $ chez Time Out Mirabel.
Trois certificats de 160 $ chez SRA Karting.
L'Encan BPM Sport. Encan.bpmsport.ca.
Rien ne vaut le plaisir de l'été au volant d'un nouveau Buick. Profitez de l'événement Prix des employés pour vous et découvrez des offres exceptionnelles. Faites vite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Buick pour en savoir plus.
MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10 heures sur BPM Sport.
Ready? Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Hier, on a appris que Daniel Jones, Danny Dimes, va être complètement rétabli de sa blessure au tendon d'Achille, sa déchirure du tendon d'Achille qui a fait en sorte qu'il a raté la fin de la saison des Colts l'an passé. Et ça m'a inspiré, je me suis dit, bon, on va faire le tour. Quels joueurs vont revenir de blessure cette année dans la NFL et que ça va énormément aider leur équipe? Ça va complètement changer la Ligue cette année. Le premier, ben vous en doutez probablement, et ça, ça a déraillé la saison de son équipe l'an passé, même si son équipe... Ben, ça en allait déjà dans la mauvaise direction, c'est Patrick Mahomes qui s'était déchiré le ligament croisé antérieur vers la fin de la saison. Et les Chiefs, qui déjà étaient en très 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 mauvaise posture, allaient assurément rater les éliminatoires. Ben, au final, ça a confirmé qu'ils les ont ratés pour la première fois depuis 2014. Ça a été une mauvaise saison pour Patrick Mahomes l'an passé, la pire de sa carrière. Vraiment, là, c'est pas compliqué. Statistiquement, très difficile pour lui. On sentait pas que on voyait le Mahomes magique, dynamique, hallucinant à voir aller qu'on voyait dans les dernières années. Je pense qu'il y a des raisons qui expliquent ça, mais là, il va avoir eu une saison morte complète où il va devoir avoir fait de la réhabilitation pour son genou. Évidemment, c'est pas facile. Dans quelle forme physique est-ce qu'il va être d'une manière ou d'une autre? Je m'attends à voir un Patrick Mahomes vraiment, vraiment confiant et motivé en vue de la prochaine saison.
Ouais, je pense que oui. En plus, retour de Travis Kelce. Je pense
hey, après son mariage.
Après son mariage. Gros mariage, d'ailleurs.
Oui.
Mais effectivement, je pense que c'est des motivations qui vont être intéressantes pour les Chiefs. C'est drôle, je vais faire un petit comparatif rapidement avec le baseball, mais présentement, Vladimir Guerrero Jr. connaît une mauvaise saison et on pense mm-hmm. tous qu'il joue blessé. C'est un peu la même situation avec Patrick Mahomes.
Non, il
n'avait
pas l'air d'être lui-même l'an passé, même avant la blessure. Là.
Il osait moins sur des jeux.
Ouais, t'as raison.
Ouais, j'ai hâte de voir comment il va être capable de rebondir, mais on le sait que c'est un gamer, Patrick Mahomes. Oui. Il va revenir très fort cette
Moi,
année.
Moi, ma question avec les Chiefs, c'est est-ce qu'il est bien entouré? C'est qui le meilleur receveur sur les Chiefs? Probablement Rashee Rice. Tu peux pas dépendre de lui. Il est en prison la moitié du temps. Tu sais, sinon, t'as, ouais. Xavier Worthy est un bon jeune receveur, mais c'est un gars extrêmement rapide, puis il a pas montré jusqu'à maintenant que c'est vraiment un vrai numéro 1 ou 2 dans la NFL. C'est plus un gars de gadget.
Mm-hmm.
Sinon, c'est encore de l'espèce de rotation avec des vétérans à la Juju Smith-Schuster, etc. Marquise Hollywood-Brown. Ben, c'est pas grand-chose. C'est pas vraiment de receveur élite numéro 1. Puis en ce moment, la cible la plus fiable pour Patrick Mahomes avec les Chiefs, c'est le bon vieux Travis Kelce, ouais, qui est rendu très très vieux, physiquement beaucoup moins dynamique qu'il l'était il y a quelques années, mais ça reste que c'est le gars sur lequel tu peux le plus dépendre.
Ouais.
Puis je comprends qu'ils ont quand même fait quelques acquisitions, notamment d'un point de vue défensif pendant la saison morte. Moi, j'ai été surpris au repêchage de pas voir les Chiefs miser sur un receveur de passe, notamment avec leurs trois premiers choix. Tu sais, il y avait deux choix de premier tour, un autre choix de deux. J'étais surpris de voir que Kansas City a pas décidé de s'améliorer à cette position-là. Mais regarde, c'est ça qui est ça. Ils sont quand même allés chercher Kenneth Walker, qui vient de gagner le MVP du Super Bowl. Là, fait que
ça
devrait les aider,
ouais,
avec le jeu au sol. Maintenant, un autre blessé, un autre corps arrière, qui lui a connu une saison décevante l'an passé, c'est Jaden Daniels. Recrue par excellence offensive en 2024, a même amené les Commanders jusqu'en finale de conférence, sauf que l'an passé, Jaden Daniels a été blessé pratiquement toute la saison. Il se blessait, il revenait au jeu, il se reblessait, il revenait au jeu. Finalement, il a joué 7 matchs. Les Commanders en ont seulement gagné 2 là-dessus et il a été très, très décevant. J'ai hâte de voir comment Daniels va rebondir parce que si t'es un fan de Washington, ça peut être inquiétant. Ça te rappelle peut-être ce que t'as vécu dans le passé avec RG3, c'est-à-dire, ouais, un jeune carrière recrue qui connaît Une première saison incroyable.
Exact.
Vraiment qui te fait rêver et que là, par la suite, ben, les blessures commencent à cause de son style de jeu parce qu'il est peut-être plus frêle et il a une carrière décevante. Je le souhaite pas du tout à Jaden Daniels parce que c'est un gars qui est électrisant.
Mais
on a
raison.
Le droit de, douter en ce moment.
Ouais, les scénarios sont quand même assez similaires. En plus, Jaden Daniels, sa carrière, t'as pas peur de courir, tu sais. Fait que, non, ça va être intéressant de voir. J'espère pas. Parce que moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style. Je le trouve talentueux. Je trouve que, il est capable de faire la différence à lui-même, Jaden Daniels. C'est un vent de fraîcheur là-bas. Mais effectivement, les blessures vont être super importantes à surveiller là-dedans.
Puis, une autre chose à surveiller, c'est que les Commanders de Washington n'ont pas de receveur numéro 1. Terry McLaurin commence à vieillir. Il n'est plus aussi bon qu'il l'était il y a quelques années. Est-ce que Jaden Daniels est vraiment assez bien entouré pour réussir? Je suis pas si sûr que ça. À une autre position, avec une autre équipe, dans la même division que les Commanders, Malik Nabers et Cam Scadaboo. Ça va changer la donne pour l'attaque des Giants de New York. Malik Nabers avait connu une saison recrue exceptionnelle. C'était un des meilleurs jeunes receveurs, même un des meilleurs receveurs de la ligue, point final comme recrue. 1200 verges sur réception. L'an passé, a joué 2-3 matchs, genou déchiré, c'était fini. Cam Scadaboo aussi avait connu des débuts très très impressionnants. Par contre, ça s'est gâté par la suite avec les blessures. Si les Giants veulent vraiment prendre un pas vers l'avant cette année, si Jackson Dart veut être capable de bâtir sur ce que fait la saison dernière, il va falloir que ces deux gars-là soient en santé, en particulier Malik Nabers, parce qu'on parle d'un gars qui a le talent d'être un receveur top 5 dans la NFL. S'il est vraiment à 100%, Jackson Dart va avoir toute une combinaison avec ce receveur-là.
À quel point tu penses qu'avec la combinaison justement de Nabers, Scadaboo et Dart, les Giants peuvent prendre un pas de l'avant pour la saison prochaine?
C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est une équipe qui pourrait se battre pour une place en éliminatoire, surtout aussi avec l'arrivée d'un nouveau coach, John Harbaugh, qui a eu tellement de succès avec les Ravens de Baltimore. Il sait comment bâtir une culture gagnante. Il sait comment gérer les matchs, gérer le cadran, beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a gagné le Super Bowl. J'ai vraiment l'impression qu'il y a d'avoir un adulte comme ça qui débarque avec son pédigré dans le building à New York. Ça va complètement changer la donne. Moi, je les vois terminer autour de peut-être 8-9 victoires. Est-ce que ça va être assez pour entrer en éliminatoire? À voir. Ça dépend toujours de la force de ta division, des autres équipes et tout, mais quand même. Et finalement, je termine avec les 49ers de San Francisco. 3 blessés. 3 rouages importants de cette équipe-là, qui est toujours blessée d'ailleurs. Mais Nick Bosa, Fred Warner et George Kittle, à 3 l'an passé, ils ont combiné pour 20 matchs.
Ouais, c'est fou, ça.
C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Là. C'est à peine une saison complète pour 3 de tes 4 meilleurs joueurs. Là. Nick Bosa en santé, c'est un des meilleurs alliés défensifs de la Ligue. Fred Warner en santé, c'est peut-être le meilleur secondaire intérieur de toute la NFL. Et George Kittle, je sais qu'il vieillit, mais c'est encore un des très, très bons alliés rapprochés. Sauf que les blessures, c'est tout le temps un problème là, avec les 49ers.
C'est toujours le cas.
C'est pas pour rien qu'il y avait eu les fameuses rumeurs avec la centrale électrique, mais Christian McCaffrey est souvent blessé. Même Brock Purdy, il n'a pas nécessairement le meilleur état de santé.
Ça a été le cas avec Debo Samuel aussi.
Debo Samuel, pendant longtemps, quand il jouait avec eux, beaucoup de blessures. Ouais. Brandon Ayuk aussi.
Ouais.
Alors ça va être à suivre. Mais une chose qui est sûre avec les 49ers, c'est que leur fenêtre, elle commence à se refermer. C'est une équipe qui est vieillissante. Beaucoup des joueurs que j'ai nommés sont pas mal rendus dans la trentaine. Il en reste beaucoup moins qu'il en restait. Donc, c'est cette année, peut-être l'an prochain, mais c'est peut-être aussi le début de la fin pour les 49ers de San Francisco. Puis parlant de blessures, c'est quand même triste à voir comme situation. Même leur coach est blessé. Kyle Shanahan, dans les derniers jours, a eu un accident de la route très, très grave. Quelque chose comme 40 points de suture, des fractures, une commotion cérébrale. Bref, en ce moment, il peut même pas coacher l'équipe à cause de ça. Heureusement, ça a pas été plus grave parce que on dit que c'était un accident très, très, très dangereux. On n'a pas encore tous les détails. Mais quand je te dis qu'une équipe est malchanceuse, les 49ers, c'en est un très, très bon exemple. Alors, ça fait le tour du Focus NFL. Et là, on y va avec le Sport Flash. Hugo Reich.
Sport Flash.
Sean Farrell a été échangé aux Ducks d'Anaheim en retour de Canadien, mais la main sur l'attaquant de 23 ans, Sacha Patsuyov. Farrell aura disputé seulement 6 matchs avec le Canadien, où il a marqué un seul but. Il a disputé 3 saisons avec le Rocket de Laval, dont sa meilleure l'année dernière. Il a fait 53 points en 72 matchs. Pour Patsuyov, lui, on parle de 57 points en 71 matchs l'année dernière. Au tennis, Gabriel Diallo est éliminé éliminé à Los Cabos. Le Montréalais a perdu 7-5 et 6-2 contre l'Américain Tristan Boyer en première ronde. C'est Denis Shapovalov qui sera en action aujourd'hui. Il est la 8e tête de série de ce tournoi-là et c'est lui qui a remporté le tournoi l'année dernière. Donc ça va être à surveiller, voir s'il va être capable de le faire pour une deuxième fois. Et finalement, au jeu du Commonwealth, le Québécois brille en gymnastique. Léa Monica Fontaine et Félix Delchy ont remporté 2 des 3 médailles d'or canadiennes dans la discipline. Et le Canada a mis la main sur 6 médailles dans toute discipline confondue en gymnastique. Assez impressionnant. Et par la suite, au lancer du marteau, ben c'est Ethan Katzberg qui a remporté la compétition avec un lancer de 80,97 mètres. C'est un record pour les Jeux du Commonwealth.
Très bon.
Assez impressionnant de le voir aller, Ethan Katzberg, sérieusement.
C'est toujours une épreuve qui est impressionnante à voir aller. Le lancer du poids, ce sont des mastodontes.
Ah ouais, absolument.
Ça. On va prendre une pause au retour. C'est les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000. Il y en a eu des beaux, il y en a eu des moins beaux. C'est un très, très beau, celui qu'on va faire après la pause. Si vous avez grandi dans les années 90-2000, ça se peut que ce joueur-là était votre préféré quand vous étiez plus jeune, et on en parle après la pause.
Votre été s'annonce encore plus beau, car le prix des employés pour vous est en cours chez Chevrolet. Commencez votre prochaine aventure dès aujourd'hui en visitant votre concessionnaire Chevrolet le plus près pour découvrir nos offres.
La 5G rapide et abordable, c'est chez Koudo. Pourquoi vous contenter de moins? Obtenez le forfait 5G qui vous convient, plus un extra sans frais comme l'itinérance Voyager connecté pour 3 jours par mois. Passez à la joie, passez à Koudo!
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participants, taxe en sus, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 24 de Heineken est à 35,99$, puis la caisse de 48 canettes de Coors Light est à 69$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 29 juillet en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Ah, que je suis déçu, là. Hey, je voulais tellement aller voir le match, mais il n'y a plus de billets.
Voyons, as-tu regardé sur billets.ca? Il y a tellement de choix, tu vas trouver ton billet, c'est certain. Même jusqu'à la dernière minute.
Billets.ca. Soyez là.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par ci, Sico, Sico par là. On donne tout ça, Sico, Sico par ci, par là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
Ici Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Grâce à Payé, concessionnaire GM numéro 1 au Canada depuis 10 ans, j'ai la chance de vous parler NASCAR Canada. Soyez là pour tout savoir sur les actualités de vos pilotes favoris au Canada, y compris celles de Marc-Antoine Cameron et Andrew Ranger de l'équipe Payé Course Racing. Chaque lundi et vendredi des week-ends de course, 9h18.
Jusqu'à 10h, fais partie du club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Le club du matin, sur BPM Sport.
Les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000. À tous les jours, à cette heure-ci, on revient sur un moment qui aura marqué l'histoire du Canadien pendant les 26 dernières années. Parce qu'il y a eu des beaux moments, des moments de réjouissance, des moments plus difficiles, des moments plus tristes qui nous ont fait vivre de moins belles émotions, mais il y en a aussi eu entre les deux, des moments cocasses, ici et ça. Et donc, à tous les jours, on présente un moment. Le vendredi, parmi tous les moments de la semaine qu'on a présentés, vous allez voter pour un finaliste, soit sur la messagerie texte ou soit sur YouTube. Et à la fin de l'été, on pourra déterminer c'est quoi le moment marquant du Canadien depuis 2000. Et là, on va y aller avec le moment du jour.
This is an unbelievable reaction here by Theodore. Unbelievable. It looked like he might hit the knob of the stick of the shaft stick as well and then hit his block. This is a remarkable save. I mean, this is absolutely marvelous.
La saison 2001-2002 de José Théodore va marquer les esprits à Montréal pendant très, très, très longtemps. Il termine la saison régulière avec une fiche de 30-24-10, un pourcentage d'efficacité de 931. Ça, c'était le meilleur dans toute la LNH. Et une moyenne de buts alloués de 2.11. Ça, ça a permis aux Canadiens de faire les séries. Même si son meilleur pointeur, Yannick Perreault, avait terminé avec seulement 56 points. Et avec cette saison incroyable-là, José Théodore a remporté le trophée Hart, premier joueur du Canadien depuis Guy Lafleur en 1978 à le faire, et le trophée Vézina. Et il a même éliminé les méchants Bruins de Boston qui avaient gagné la division au premier tour.
Ah ouais, c'est impressionnant. Puis c'est quand même assez ironique qu'il fasse cet arrêt-là sur Martin Lapointe qui travaille dans l'organisation
maintenant.
Mais oui, effectivement, José Théodore est devenu une superstar pour le Canadien.
Ah ouais.
Écoute, c'est triste ce que tu viens de dire. Yannick Perreault, 56 points, meilleur marqueur de l'équipe.
Ça, ça s'appelle un gardien qui prend son équipe là, puis qui l'amène en série à bout de bras lui-même.
Littéralement. On était dans les périodes creuses du Canadien de Montréal.
Tu l'as dit, Hugo, là, c'était une superstar. J'irais même jusqu'à dire que c'était une rockstar, José Théodore. Là.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'était un phénomène culte.
Ouais, en plus, je sais pas si tu savais, mais José Théodore joue de la guitare. C'est un très bon guitariste. Fait que,
non, je savais pas.
Ouais, c'est vraiment un très bon guitariste, José Théodore.
Puis tu sais, évidemment, le Canadien, après le départ de Patrick Roy, avait toujours cherché ça, là, son gardien numéro un vedette. Et là, ils l'ont trouvé. Un gars d'ici en plus, qui avait quand même une belle histoire.
Ouais.
Tu sais, qui avait un certain charisme, il dégageait de quoi. Vraiment, instantanément, là, il est devenu le visage du Canadien de Montréal.
Exactement, puis c'est pas pour rien que tout le monde se souvient de José Théodore, mais aussi de toutes ses prouesses, et pourquoi il a été suivi aussi lorsqu'il a quitté le Canadien. Et écoute, c'était une lueur d'espoir dans une période sombre, surtout cette saison-là.
Ouais.
Et de le voir se comporter de la sorte, c'est un bon souvenir que tu as choisi aujourd'hui parce que il en a fait du bon. Je sais qu'il y avait beaucoup de distractions là, autour de lui, en dehors de la patinoire, qui n'a pas toujours fait l'unanimité, José Théodore, mais sur la patinoire, il a été plus bénéfique qu'autrement pour le Canadien.
Ouais. Ça a été assez éphémère, par contre, parce que la saison suivante, ça a été plus difficile pour Théodore, mais aussi pour le Canadien. Il a fini l'année avec une fiche de 20-31-6. Son pourcentage d'efficacité est passé de 931 à 908. La moyenne de buts alloués de 2.11 à 2.90. Le Canadien qui a raté les séries. Il a quand même rebondi par contre en 2004 et il est revenu parmi peut-être le groupe des bons gardiens par la Ligue, à travers la Ligue. 2005-2006, par contre, ça a été une saison beaucoup plus difficile pour José Théodore. Ça a même éventuellement mené à son départ de Montréal. Il a été échangé à l'Avalanche du Colorado pour David Abichaire. A jamais vraiment été capable de retrouver les exploits, le pic qu'il avait connu pendant la saison 2001-2002, mais regarde, c'est des choses qui arrivent.
Exact.
Puis ça reste que cette saison-là, ces accomplissements-là, ils vont être marquants pendant longtemps.
C'est vrai, t'as raison. On dirait que tout au long de sa carrière, une fois qu'il a changé ou il disputait la première saison dans une nouvelle organisation, ça a toujours été quand même bien, mais ça n'a jamais été constant. Pour José Théodore, il l'avait fait avec les Panthers, avec les Capitals, avec le Wild du Minnesota, avec l'Avalanche, mais c'est la constance qu'on a cherchée dans son cas, et je pense que c'est pour ça qu'au final, les gens sont plus relativement déçus qu'autre chose par moment quand tu parles de lui, parce que avec les blessures, avec le manque de rendement, au final, cette saison 2001-2002, là, c'est pas mal le meilleur souvenir qu'on peut avoir de sa carrière.
Ah, c'est sûr.
Ouais.
Si je te demande quelle saison a été plus impressionnante, la saison 2001-2002 de José Théodore, je viens d'énumérer le palmarès, ou la saison 2014-2015 de Carey Price. Si tu veux, je peux te donner les chiffres. Okay?
Vas-y.
La fiche de Théodore, 30-24-10. Carey Price, c'était 44-16-6. Pourcentage d'efficacité, 933 pour Carey Price, 931 pour Théodore. Moyenne de buts alloués, 2.11 pour Théodore. Pour Carey Price, 1.96. Les deux ont gagné le Hart. Les deux ont gagné le Vézina. Par contre, Price avait une bien meilleure équipe devant lui, là, même pas proche.
Ouais, même
t'avais
pas proche.
Quand même un gars comme Piqué Subban, qui venait juste de gagner le Norris. André Markov jouait aussi en défense. Max Pacioretty a marqué 37 buts cette année-là. T'sais, j'ai dit que le meilleur pointeur cette saison-là, en 2002, c'était Yannick Perreault à 56 points, mais t'as quand même trois joueurs du Canadien en 2014-2015, qui ont inscrit 60 points ou plus. Pacioretty, Plekanec ou Subban.
Ouais.
Price s'est rendu aussi jusqu'au carré d'or. Non, pas, il s'est pas rendu jusqu'au carré d'or, c'était celle d'avant. Ouais. Laquelle est plus impressionnante selon toi?
Ah, c'est difficile, mais on dirait que j'ai pas le choix de le donner à Théo 2001-2002 parce que prenant en considération le groupe de joueurs qui l'avaient, ouais, et le résultat de la saison au final, c'est-à-dire une présence en deuxième ronde en séries éliminatoires, mm-hmm, quand cette année-là, le Canadien aussi avait terminé en deuxième ronde en 2015,
ouais,
c'est sûr que c'est plus impressionnant. T'as quand même un pourcentage d'arrêt de 931. Puis
les statistiques sont...
Le groupe était beaucoup plus faible. Là, t'sais, faut prendre ça en considération. J'enlève absolument rien à Carey Price. En termes de carrière, il y a une carrière nettement supérieure à celle de Théo. Ouais. Là, c'est même pas comparable. Mais si tu parles d'une saison pour une saison, écoute, moins de 2.11 dans une équipe qui marque pas, puis un pourcentage d'arrêt de 931, c'est impressionnant. Par contre, et là, j'ai pas vu son nombre de blanchissages, mais je me souviens que Carey Price, cette année, si je me trompe pas, a eu 9 blanchissages, je vais juste confirmer. 9, c'est quand même impressionnant, par contre, dans une saison. on va y donner.
Il y en avait eu 7 cette année, Théodore.
Okay.
Puis si je te demande, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi l'héritage de José Théodore pour toi?
Mais je pense que l'héritage, c'est quelque chose d'intéressant pour la culture québécoise au sein du Canadien de Montréal. T'sais, ça a quand même mis une belle étiquette sur performances d'un Québécois dans l'uniforme du Canadien, dans l'époque moderne du Canadien.
On pourrait dire que c'était peut-être la dernière super vedette québécoise à Montréal.
Exact, parce qu'après ça, on se fiait sur David Desharnais. Genre, tu sais, des gars de même.
Ouais, ou Philippe Danault, à son premier passage.
Exact. Moi, je suis d'accord avec toi.
La dernière super vedette québécoise avec le Canadien de Montréal, José Théodore, t'as raison.
Ouais, je suis d'accord avec cette affirmation-là à fond la tête.
Bon, ouais. Hein, on en accomplit des choses.
On en règle des choses.
Exactement.
Ici. Yes.
OK, après la pause, c'est le dugout. Une victoire des Blue Jays hier et ça commence à se chauffer en vue de la date limite des transactions. Il y a des gros noms qui pourraient changer d'adresse et on fait le tour après la pause.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle, c'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane, avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjou et Côte-des-Neiges et Verdun et Hellensic et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Dollard-des-Ormeaux. Et la Chine et Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Mmh. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapido.
On dirait que tu dis beaucoup app.
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais-le un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Happy Chew.
App tes souhaits.
App, 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 app.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là, on donne tout seul Sico, Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
Vous voulez partir pour Québec, Boston ou même Vancouver, que ce soit avec ton équipe de hockey ou pour un voyage d'affaires, faites confiance à Autocar Janois. Autocar de luxe, minibus et navette, peu importe la destination. Réservez dès aujourd'hui au 514-390-8935.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participant, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Votre été s'annonce encore plus beau, car le prix des employés pour vous est en cours chez Chevrolet.
Commencez votre prochaine aventure dès aujourd'hui en visitant votre concessionnaire Chevrolet le plus près pour découvrir nos offres.
Le 1er août à 19h30, le CF Montréal affronte le New England Revolution en direct du stade Saputo. Viens vivre toute l'intensité du soccer, encourager ton équipe et faire vibrer les estrades. Sois de la partie. Billets disponibles dès maintenant au cfmontréal.com.
Fais partie du club. Le club du matin. Jusqu'à 10h. Sur BPM Sport. Dans le dugout.
Les Blue Jays hier amorçaient une série face aux Nationals de Washington et ça s'est très bien passé. C'était d'ailleurs le retour au monticule de Max Scherzer. C'est ta fête en plus hier. Bonne fête Max Scherzer. Et il y a eu une excellente performance qui a mené à une victoire de 3-2 des Blue Jays de Toronto face aux Nationals de Washington. Bon, évidemment, à ce stade-ci de la saison, ça veut plus dire grand-chose. Il est trop peu trop tard, mais Hugo, on peut quand même se réjouir de quand un gars comme Max Scherzer, à son âge, continue de performer de la sorte.
Ouais, exactement. Max Scherzer aussi, qui avait très hâte de revenir au jeu, on le sait. Dans le fond, lui a été à l'écart parce qu'il avait beaucoup de maux de dos en début de saison. Il avait fait quelques sorties, mais ça n'a jamais vraiment été concluant. Une victoire, 4 défaites en 5 sorties pour Max Scherzer cette saison. Écoute, on retourne à Washington, une équipe qu'on connaît, un environnement où on est confortable. Il a lancé 2.2 manches, on fait un retour progressif dans son cas, mais ça a quand même été intéressant. Un seul point mérité, 3 buts sur balle, 4 retraits sur des prises quand même, dont 2 très 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 importants en première manche où il avait rempli des buts, a été capable de se sortir de cette situation-là. Et lorsqu'est venu le moment de retirer Max Scherzer de la partie, il a reçu une ovation des fans des Nationals. Ça te dit à quel point il est respecté.
Ouais, exactement.
Il a gagné un titre aussi dans 2019. Exactement. Donc, non, encore une fois, Max Scherzer qui a été quand même très bon là, lors de son retour et que la relève a fait la différence aussi. On a été là, on a fermé les livres, on n'a pas accordé beaucoup de points, on a été très, 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 très solide. Et pour ce qui est de l'attaque des Blue Jays, ben, ça a été en fin de compte quand même efficace. T'sais, on n'a pas fait grand-chose de plus, grand-chose de moins. Ernie Clement, Miles Straw ont été les contributeurs principaux de l'attaque des Blue Jays. Ernie Clement, d'ailleurs, qui en début de partie a frappé un coup sûr, qui a frappé le troisième but. Ça, c'est rare qu'on voit ça là-bas. Tu frappes un but et qui s'en va dans le champ extérieur, mais ça, on a réussi à capitaliser par rapport à ça. Kazuma Okamoto aussi qui a été très important au niveau de l'attaque et par la suite, ben, la relève a fait la différence. On a réussi à fermer les livres comme il faut.
Les Nationals sont quand même une équipe qui surprend cette année. C'est une très, très jeune formation.
Ouais.
On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dans la course pour peut-être faire les séries aussi tard dans la saison. Ils ont vraiment de très, très bons jeunes joueurs.
Ouais, naturellement, on a James Wood qui cogne, qui est un joueur assez particulier dans la gauche, qui a un grand gabarit, beaucoup, beaucoup de puissance, mais qui est très rapide. CJ Abrams, qui est probablement un des meilleurs arrêts courts offensifs de la Ligue. On parle pas assez de lui, mais il fait beaucoup la différence.
D'ailleurs, par contre, parlant de CJ Abrams, parce que là, on va y venir, là, mais la date limite des échanges qui est dans moins d'une semaine, c'est lundi prochain, le 3 août. On parle que c'est un gars qui pourrait être échangé. Pas nécessairement que les Nationals appellent les différentes équipes à travers la Ligue puis disent « Hey, voulez-vous CJ Abrams? » Mais ils reçoivent des appels puis que s'ils ont vraiment une bonne offre, c'est un gars qui pourrait échanger. Je trouve ça dommage quand même. Si t'es un fan des Nationals, ton équipe se sort enfin de la misère. Puis là, tu vas échanger un de tes meilleurs bons jeunes joueurs.
Ouais, c'est sûr et certain. Mais CJ Abrams est quand même inconstant au niveau défensif. C'est ça, son gros talon d'Achille. Mais un profil d'un arrêt court avec de la puissance, c'est rare. Et CJ Abrams, c'est pour ça, je pense, qu'il attire autant d'attention envers lui. Et pour ce qui est des Nationals, bien, on est assez confiant dans notre pipeline dans notre système d'espoir pour justement être capable de capitaliser à ce niveau-là. Donc, je suis pas trop inquiet. C'est une jeune équipe qui va grandir. Ça se peut même qu'on décide d'aller attacher un vétéran à ça. Donc, je suis pas trop inquiet du côté des Nationals, mais effectivement, tu fais bien de le souligner. CJ Abrams, quand même un nom à surveiller dans tout ce lot-là.
Le nom à surveiller, par contre, on s'en sent, c'est Tarik Skubal, lanceur tout étoile des Tigers de Détroit. C'est de plus en plus clair qu'il devrait être échangé. C'est de loin le plus gros nom sur le marché. Où est-ce que tu t'attends à le voir atterrir? On parle quand même de quelques équipes, notamment les Rays et les Brewers, qui ont de l'intérêt. On peut jamais mettre de côté les gros marchés, les Braves d'Atlanta, les Yankees, les Phillies, les Cubs. C'est un gars qui va attirer énormément d'attention. Là. Les Dodgers aussi, bien
évidemment. Les Dodgers,
ça va de soi.
T'sais, moi, je pense que vraiment les deux...